Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 5 septembre 2014, en direct de Washington, Bagassi Koura et Morgan Kiyek. Bonsoir Morgan.
Bonsoir Bagassi, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, le chef suprême de la milice islamiste des Chebab, Ahmed Abdi Godane, a été tué selon Washington.
Nigeria, les témoignages confirmant la prise de la ville stratégique de Bama par Boko Haram se multiplient, mais en face, l'armée est dément.
Plus de 2000 morts et près de 4000 cas, tel est le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola.
En RCA, le chef de la diplomatie affirme que le pays ne sera pas mis sous tutelle.
Et puis au Niger, la Cour constitutionnelle désavoue le président de l'Assemblée nationale, Amadou. L'homme est en fuite, mais son dossier concernant les bébés volés va suivre son cours.
Dans tous les cas, cela ne peut pas aboutir à une impunité. Même s'il n'est pas là, il y aura un bébé de recherche infructueuse.
Nous ferons aussi le point sur la crise malienne avec les pourparlers qui ont repris le 1er septembre à Alger entre les rebelles et le gouvernement.
Et comme toujours, en fin d'émission, nos pages sport et musique. Et pour l'instant, le journal.
Le chef suprême de la milice islamiste des Chebab, Ahmed Abdi Godane, a été tué lors d'une frappe aérienne américaine menée lundi en Somalie. C'est ce qu'indique un communiqué du bureau de presse de la Maison Blanche. Il précise que le Pentagone a confirmé la mort de Godane, soulignant que c'est une grande perte symbolique et opérationnelle pour le plus important allié d'Al-Qaïda en Afrique. Le gouvernement américain s'engage toutefois à continuer la lutte contre les Chebab, tant au plan militaire et diplomatique que financier. La Maison-Blanche réaffirme aussi le soutien des États-Unis aux partenaires internationaux, en particulier la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM.
Le point sur l'épidémie d'Ebola à présent, avec ce dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, on compte désormais plus de 2000 morts et 3944 cas. C'est dans ce contexte que l'OMS annonce que les thérapies à base de sang et les sérums peuvent être utilisées dès maintenant dans les pays affectés par l'épidémie d'Ebola. La sécurité sanitaire des deux premiers vaccins sera connue en novembre après des tests, notamment au Mali, annoncé vendredi l'OMS. Notons aussi qu'un troisième Américain a été rapatrié aux États-Unis après avoir contracté la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, Camille Gros-Didier.
Le docteur Rick Sacra, qui travaillait au Liberia, était attendu dans l'État du Nebraska vendredi. Il sera traité au centre médical du Nebraska, dans la ville d'Omaha. Deux autres Américains infectés par le virus à Ebola, le docteur Kent Brantley et la missionnaire Nancy Wrightball, se sont remis de la maladie après avoir été rapatriés vers l'hôpital de l'Université Emory à Atlanta, en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. Le docteur Sacra travaillait au Liberia pour le compte de l'ONG SIM, qui est basée en Caroline du Nord. Selon Bruce Johnson, président de SIM, il aurait reçu d'excellents soins au Liberia, mais voilà, l'hôpital du Nebraska sera en mesure de lui offrir des options supplémentaires de traitement. Selon les médias, une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa contamination, le docteur ne s'occupant pas de malades atteints du virus à Ebola. Près de 200 experts discutaient jeudi et vendredi à Genève, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, de possibles remèdes et vaccins contre la maladie et des mesures à prendre pour enrayer la propagation du virus. À ce jour, aucun remède ou vaccin n'existe contre cette maladie mortelle, mais un sérum expérimental, le ZMapp, mis au point par une société américaine, a été injecté à un petit nombre de patients dont certains ont survécu. Comme ces patients avaient également bénéficié d'autres thérapies, impossible pour l'instant d'assurer que c'est au ZMapp qu'ils doivent d'être toujours en vie.
Situation trouble à Bama, dans le nord-est du Nigeria. Les témoignages confirmant la prise de cette ville stratégique par Boko Haram se multiplient. Mais en face, l'armée dément. Bama est la dernière ville d'importance sur la route de Maïdougouri, métropole du nord-est du Nigeria, que les insurgés sont en train d'encercler. La crainte de voir toute la région tomber entre les mains des islamistes est grande. Adamou Aboubakar Gwarzo, notre correspondant au Nigeria, affirme que Boko Haram s'est également emparé de Gwoza, dans la même région. Nous l'écoutons.
Depuis avant-hier, les islamistes contrôlent la ville de Gwoza et Bama. L'armée a sorti un communiqué en démentant les observateurs que j'ai pu interviewer, qui ont fui Bama hier pour la ville de Maïdougouri, qui m'ont confirmé que les islamistes ont pris Bama. Les islamistes sont en train de commettre des crimes contre la population, détruire les maisons, des innocents et tuer des gens. Un des observateurs que j'ai pu interviewer, il me soulignait qu'il y a des gens qui donnent des informations à l'armée. Donc quand les islamistes sont venus, ils sont en train de chercher ces gens-là pour les éliminer. Donc même l'Assemblée a peur, parce que si Boko Haram peut prendre des villes, donc avec le temps, il peut marcher jusqu'à Abuja. Les militants de Boko Haram, c'est des djihadistes, ils n'ont pas peur de perdre leur vie. Vous voyez, mais l'armée ou les soldats soulignent qu'il y a la corruption, les boss qui sont à Abuja, ils ne les financent pas comme ce qu'il faut pour combattre l'insurgence. Donc vous voyez, les jeunes soldats, maintenant, ils ont peur de servir le pays.
Voilà, crise malienne à présent. Les pourparlers entre les rebelles et le gouvernement ont repris le 1er septembre à Alger. Il s'agit de négociations qui vont aider à résorber la crise malienne. Joint par Sara Diaby dans la capitale algérienne, le journaliste malien Boukari Dabo fait le point.
Aujourd'hui, les journées ont été consacrées à l'écoute de la société civile. Maintenant, le médiateur veut s'imprégner de ce que pense la société civile de la situation et en plus de ce que les groupes armés et le gouvernement malien savent déjà et qui ont été déjà enregistrés par le médiateur. Donc, c'est fort de tous ces points de vue que le médiateur va essayer de converger les vues et de nous dire ce qu'il y a à faire et qui sera le contenu de l'accord qui sera signé. Mais pour le moment, nous ne pouvons présager de rien. Les partis qui sont là sont optimistes. Il y a quand même souvent des discours indépendantistes qui viennent de certains participants.
Voilà, c'était le journaliste malien Boukari Dao, joint à Alger.
Retour sur le crash de l'avion d'Air Algérie le 24 juillet au Mali. Un premier rapport sur les causes de l'accident sera dévoilé le 20 septembre à Bamako. C'est ce qu'annoncent les enquêteurs français cités par l'AFP. Souvenez-vous, cet accident a entraîné la mort de 116 personnes. D'après le bureau d'enquête et d'analyse, l'avion a été pulvérisé à son impact au sol après avoir perdu de la vitesse alors qu'il traversait une zone orageuse.
Un RCA mis au point du ministère des Affaires étrangères sur l'accord relatif au statut de la MINUSCA. Le chef de la diplomatie centrafricaine Toussaint Kongo-Doudou a démenti les rumeurs annonçant la mise sous tutelle du pays à travers cet accord. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
La réaction du ministre centrafricain des Affaires étrangères fait suite aux rumeurs annonçant la mise sous tutelle du pays à travers l'accord de siège avec l'ONU. Pour Toussaint Kongo-Doudou, les 12 000 casques bleus attendus d'ici le 15 septembre interviendront pour ramener la paix, la sécurité, afin de faciliter la relance des activités sur l'ensemble du territoire national.
Les Nations Unies ont placé des pays sous tutelle suite à une résolution du Conseil de sécurité. Ce n'est pas le cas. La résolution 2149 ne place pas sous tutelle notre pays. Il ne faut pas avoir honte d'avoir une mission de maintien de la paix quand le pays a été largement fragilisé et la paix a été menacée. L'ONU est intervenue au Libéria, est intervenue en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en RDC à côté de chez nous ici. Ces pays ne sont pas sous tutelle. Moi-même, j'ai participé à plusieurs opérations de maintien de la paix. J'étais acteur de la part des Nations Unies. Je sais de quoi je parle et ce n'est pas le cas pour la République.
Le gouvernement centrafricain et l'ONU ont signé le 2 septembre dernier l'accord de siège relatif au statut de la MINUSCA en Centrafrique. Par ailleurs, à Bossangwa, au moins une personne a été tuée jeudi dans un accrochage opposant les soldats de Sangaris aux miliciens anti-Balaka.
Tension politique en République démocratique du Congo. D'après l'AFP, une plateforme d'opposition appelle à manifester le 13 septembre à Kinshasa contre une éventuelle révision de la Constitution, une mesure qui pourrait permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat.
Accord de paix au Mozambique, le président Armando Guebuza et le chef rebelle de la RENAMO, Alfonso Dhlakama, ont signé le document aujourd'hui à Maputo. Selon le cessez-le-feu conclu le 24 août, l'accord met fin à 2 ans d'affrontements sporadiques et ouvre la voie des élections en octobre.
En Libye, l'ONU dénonce de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, des crimes qui se sont produits lors de combats à Tripoli et à Benghazi. Le rapport de l'ONU évoque des bombardements aveugles, y compris contre des hôpitaux, des enlèvements de civils, des tortures et des assassinats. Des femmes, des enfants et des étrangers ont notamment été victimes de ces abus.
Procès du président kenyan Uhuru Kenyatta à La Haye. Dans un document soumis au juge, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Ben Souda a demandé un rapport au Sénégal. Nairobi ne coopérant pas, explique-t-elle. L'accusation ne dispose pas d'assez de preuves pour un procès. L'affaire doit donc être reportée jusqu'à ce que le gouvernement kenyan exécute la requête.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, crise en Syrie, plus d'une dizaine de morts, c'est le bilan d'un bombardement de l'armée de l'air sur une station de taxi dans un secteur rebelle de la métropole septentrionale d'Alep en Syrie. L'information émane d'une ONG et d'un correspondant de l'AFP présent sur place. Depuis fin 2013, l'armée de l'air du président Bachar al-Assad largue quotidiennement des barils d'explosifs sur les secteurs rebelles de l'est de l'ancienne capitale économique de la Syrie, malgré une résolution de l'ONU condamnant cette pratique.
Les autorités ukrainiennes et les séparatistes pro-russes sont parvenus à un accord sur le retrait des troupes et un échange de prisonniers. Ils ont annoncé un cessez-le-feu ce vendredi à l'issue d'une réunion cruciale à Minsk. Selon une représentante de l'OSCE, citée par l'agence France-Presse, le futur statut des républiques unilatéralement proclamé par les insurgés à Donetsk et Lugansk n'a pas été discuté selon la même source.
Et c'est dans ce contexte que les dirigeants de l'OTAN ont approuvé l'envoi de matériel militaire en Europe de l'Est comme moyen de dissuasion vis-à-vis de la Russie. Ils ont également convenu d'établir une force de réaction rapide des troupes de l'Alliance pour répondre aux crises. Nathalie Barge.
Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a annoncé l'opération Fer de Lance ce vendredi à l'issue du sommet de 2 jours à Newport, en Pays de Galles, au Royaume-Uni. Il a dit que la force sera composée de plusieurs milliers de troupes au sol, avec le soutien de la marine, de l'air et d'unités des forces spéciales. Pour ce faire, chaque pays membre devra fournir, sur une base rotative, des troupes aptes au déploiement sur un préavis de quelques jours. La force aura des bases dans plusieurs pays de l'OTAN en Europe de l'Est. Monsieur Rasmussen a précisé que la Pologne, la Roumanie et les Pays-Baltes ont proposé de servir de base de stockage d'équipements et de fournitures et également de postes de commandement annexes et de centres de planification et de communication. Le chef de l'OTAN a déclaré que la décision était en réponse, je cite, « aux actions militaires illégales en Ukraine de la Russie » ainsi qu'aux déclarations de Moscou estimant avoir le droit d'intervenir dans d'autres pays.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est tout pour le journal. On enchaîne maintenant sur la partie magazine de notre émission. Au micro, Morgane Guiriec et Bagassi Koura en direct de Washington. On commence par le Niger. Au Niger, où la Cour constitutionnelle a désavoué le président de l'Assemblée nationale, Amadou. Celui-ci a demandé à la dite Cour de déclarer incompétent l'actuel bureau du Parlement pour statuer hors session et décider de sa mise à disposition de la justice qui veut l'entendre et peut-être même l'arrêter dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés pour laquelle son épouse est incarcérée depuis quelques semaines. Dans une décision rendue hier et publiée aujourd'hui, la Cour estime que le bureau est bien habilité à autoriser l'arrestation d'un député. D'autres détails avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Dans l'arrêt en réponse à la requête du président de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle dit clairement que le bureau de l'institution, même incomplet, est habilité à exercer ses attributions prévues par le règlement intérieur aussi longtemps que les postes vacants n'auront pas été pourvus. Aussi, selon toujours l'arrêt, le bureau de l'Assemblée nationale est compétent hors session pour autoriser l'arrestation d'un député national. Hamma Amadou avait en effet demandé à la Cour de déclarer illégal La décision du bureau qu'il préside et qui s'est réuni sans lui pour décider de le mettre à la disposition de la justice dans le cadre de l'instruction de l'affaire dite des bébés importés dans laquelle une de ses épouses garde prison depuis 2 mois. Dans une récente sortie médiatique, le procureur de la République déclarait que si cette décision de la Cour déclare légale la décision du bureau de l'Assemblée, Hama Amadou en exil peut se voir délivrer un mandat d'arrêt international.
Si la Cour constitutionnelle confirme le caractère légal de cette autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, en ce moment, le doyen des juges d'instruction va convoquer M. Hama Amadou. S'il n'est pas là, il doit constater qu'il n'est pas là, émettre un mandat d'amener. Si on n'arrive pas à l'avoir, il va faire un procès verbal d'exécution qui constate que M. Hama Amadou n'est pas présent. Ensuite, passer à l'autre étape pour émettre cette fois-ci un mandat d'arrêt international qui sera diffusé par le canal d'Interpol. Dans tous les cas, cela ne peut pas aboutir à une impunité. Même s'il n'est pas là, il y aura un PV de recherche infructueuse. Le juge, quand il aura clôturé son dossier, il va les renvoyer devant le tribunal. Ils seront jugés, ceux qui seront là et ceux qui ne seront pas là. Ils vont être jugés, condamnés par défaut. Et le jour où ils pourront être pris, ils vont purger la peine à laquelle ils auront été éventuellement condamnés.
La décision de la Cour constitutionnelle n'a pas encore suscité de réaction du côté du parti du président de l'Assemblée nationale qui, aux dernières nouvelles, se trouve entre la France et la Belgique. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Venons-en maintenant à cette situation insurrectionnelle dans le nord-est du Nigeria. Si les témoins sur la prise de la ville stratégique de Bama par Boko Haram se confirment, ce serait la dernière grande localité en date à tomber aux mains des insurgés. Pourtant, il y a quelques mois, lors de la prise en otage des quelques 200 jeunes filles, plusieurs pays occidentaux avaient dépêché des missions militaires pour aider le Nigeria. Qu'est-il advenu de cet appui occidental contre Boko Haram ? Bagassikoura a posé la question à Walid Fares, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et professeur à la National Defense University à Washington.
Il y a des plans qui sont soumis au gouvernement pour une action commune franco-américaine avec l'appui des États alliés africains. Seulement, bien sûr, il faut coordonner avec le gouvernement nigérien parce que cela implique, bien sûr, des opérations sur le territoire nigérien. Et possiblement, si ces personnes qui ont été enlevées ont été transférées au Cameroun ou dans d'autres régions, il va y avoir une consultation avec ces gouvernements demain.
Est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements occidentaux, notamment les États-Unis, sont un peu découragés par l'attitude d'Abuja?
Oui, c'est vrai. On sent qu'à Washington, le dossier Nigeria-Boko Haram n'est plus en première manchette à cause certainement de ce qui se passe en Syrie et en Irak. Mais nous savons très bien qu'au Congrès américain, au Parlement européen, il y a des comités qui font des pressions pour qu'une opération internationale soit sérieuse et qu'elle aboutisse à la libération de ces jeunes filles. C'est épouvantable ce qui se passe pour ces jeunes femmes. Mais il y a aussi une discussion avec le gouvernement. Il me semble qu'il y a des demandes qui ont été faites au gouvernement nigérien et le gouvernement nigérien probablement aurait d'autres vues sur la question. Là, ce n'est pas très clair ce qui se passe entre Washington et le gouvernement nigérien.
Et en ce moment, on a la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, qui est au Nigeria. Elle a demandé au Nigeria de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on peut voir en cela une expression de la frustration de Washington face à l'attitude d'Abuja?
Oui, il me semble que le département d'État américain et donc l'administration américaine a demandé quelques mouvements à Abuja. Cela n'a pas encore été exécuté parce que sans une coopération complète et stratégique avec le gouvernement nigérien, il sera très difficile pour les forces spéciales, pour l'équipement international de pouvoir aboutir. Cette opération ne pourra aboutir que s'il y a un appui total, je ne veux pas dire inconditionnel, bien sûr, mais un appui total de la part du gouvernement nigérien. Il me semble que la responsable américaine maintenant se trouve au Nigeria pour discuter de cette phase.
Et qu'en est-il des forces occidentales qui avaient été envoyées au Nigeria pour retrouver les otages?
Le département d'État, le département de la Défense, le Pentagone ne révèle pas beaucoup sur les détails techniques. Mais ce que nous savons à Washington, c'est qu'il y a une action en ce qui concerne une collection de renseignements espionnage, disons. Il y a beaucoup d'actions en ce qui concerne la location, l'identification, et aussi il y a des scénarios qui sont soumis à l'administration américaine, aux Européens aussi, pour voir quel serait le meilleur moyen d'extraction, parce que le Boko Haram a dispersé les otages dans plusieurs endroits, et donc on ne veut pas, en Amérique, au moins qu'il y ait une rétribution, une vengeance contre les otages. Si certaines filles sont libérées, il y a le risque quand même que les Boko Haram, qui sont des terroristes, vont prendre vengeance sur d'autres.
Voilà l'analyse de Walid Fares, chercheur et professeur.
Voilà, cette confirmation, le chef suprême du groupe islamiste Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, a été tué lors d'une frappe aérienne américaine menée lundi en Somalie. Du moins, c'est ce qu'indique un communiqué de la Maison-Blanche. Il précise que le Pentagone a confirmé la mort de Godane. Pour Washington, c'est une grande perte symbolique et opérationnelle pour le plus important allié d'Al-Qaïda en Afrique.
Le gouvernement américain s'engage toutefois à continuer la lutte contre Al-Shabaab, tant au plan militaire et diplomatique que financier. La Maison-Blanche réaffirme aussi le soutien des États-Unis aux partenaires internationaux, en particulier la mission de l'Union africaine en Somalie. Le correspondant de la Voix de l'Amérique en Afrique de l'Est, Gabe Joslow, braque les projecteurs sur le parcours d'Ahmed Abdi Godane, un portrait présenté par Jacques Aristide.
Orateur éloquent, poète, doté d'un fort charisme, Ahmed Abdi Godane prend les rênes d'Al-Shabaab en 2008, après la mort d'Aden Hashi Airo dans un raid aérien américain. Vite, il impose son autorité, poursuit avec encore plus de terreur les attaques contre le gouvernement somalien et contre les forces étrangères en Somalie. Il va plus loin en 2012 en forgeant une alliance formelle avec le réseau terroriste Al-Qaïda, Abdi Ente, et le directeur de l'Institut d'études politiques à Mogadiscio.
Il dirigeait l'organisation avec une main de fer. Il l'avait faite totalement sienne.
À 37 ans, Godane devient l'un des hommes les plus recherchés pour terrorisme par les États-Unis, qui mettent sa tête à prix pour 7 millions de dollars. En 2013, il dirige l'attaque sanglante contre le centre commercial Westgate de Nairobi. Bilan, 67 personnes tuées. Au fil des ans, Godane n'hésite pas à éliminer ses rivaux. Il rajeunit le groupe d'insurgés et crée son carré de fidèles qu'il nomme Amniyat. Son adjoint, Ibrahim Al-Afghani, est liquidé en 2013 après l'envoi d'une lettre ouverte à la direction centrale d'Al-Qaïda pour se plaindre de la tyrannie de Godane. Un autre détracteur, le djihadiste américain Abu Mansour Al-Amriki, est tué la même année. Godane n'a donc pas de successeur désigné, ce qui ouvre la voie à une guerre de pouvoir interne. Abdi Ente à nouveau.
L'organisation s'expose à plus de désintégration et de fragmentation. D'autres groupes extrémistes encore plus violents peuvent aussi être des centres d'Al-Shabaab.
Toutefois, se débarrasser des dirigeants du groupe ne signifie pas la fin d'Al-Shabaab, l'analyste indépendant Abdi Weli Sheikh Abdi Samed.
Vous pouvez tuer une personne, mais vous ne pouvez pas tuer l'idéologie. Du moins, cela prend beaucoup de temps.
Le politologue est également d'avis que la lutte interne au sein d'Al-Shabaab est l'occasion pour le gouvernement somalien de tendre la main aux factions plutôt modérées dans les villes, autrefois sous contrôle du groupe. Abdi Weli Abdi Samed, encore une fois.
Nous devons nous attaquer aux causes profondes des griefs des populations. Il faut voir comment nous pouvons regagner la confiance de la société somalienne qui, elle-même, peut facilement vaincre Al-Shabaab.
Fin août, les forces de maintien de la paix de l'Union africaine, la MISOM, et l'armée somalienne ont lancé une nouvelle opération pour reprendre les bastions d'Al-Shabaab, notamment après l'avoir chassé de Mogadiscio en 2011, ce qui n'a cependant pas empêché le groupe de continuer ses attaques meurtrières dans différentes régions du pays.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous donner rendez-vous samedi. Le magazine au féminin aura comme invité le docteur Justin Paloukou de l'organisation Heal Africa à Goma, en RDC, qui prend en charge des victimes de viol, un fléau toujours d'actualité dans la région. Rendez-vous donc samedi sur La Voix de l'Amérique à 19h30, temps universel.
Voilà, on va parler un peu d'environnement dans ce magazine. Un juge américain a statué cette semaine que le géant pétrolier britannique BP a commis une faute grave dans l'explosion d'une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Une explosion qui a coûté la vie à 11 travailleurs et provoqué une vaste marée noire en 2010. Le point avec vous, Anne Albesson.
L'arrêt rendu par le juge fédéral Carl Barbier de la Nouvelle-Orléans en Louisiane confronte BP à des amendes pour dommages et intérêts qui pourraient atteindre 18 milliards de dollars. Car le juge a estimé que le groupe britannique a été imprudent dans la gestion de sa plateforme pétrolière Deepwater Horizon. L'écoulement du pétrole a été le résultat de graves négligences de la part de BP et d'une faute délibérée, a écrit le juge Barbier dans sa décision portant sur le volet civil de la procédure judiciaire. Toujours selon le juge Barbier, BP a ignoré des signes avant-coureurs de l'instabilité du puits de pétrole et a pris des décisions qui ont été essentiellement motivées par le désir de gagner du temps et de l'argent au lieu de s'assurer que la plateforme était sécurisée. Le gouvernement américain estime que des centaines de millions de litres de pétrole se sont déversés dans le golfe du Mexique et sur environ 1700 km de côte. Le montant exact des dommages et intérêts dépendra du calcul par la justice du nombre de barils de brut déversés dans le golfe du Mexique et attribués à BP. Le groupe britannique s'est déclaré fortement en désaccord avec ce jugement et a annoncé son intention d'interjeter appel. Déjà mardi, le groupe américain de services pétroliers Halliburton avait accepté de verser 1,1 milliard de dollars pour mettre fin à l'amiable à un recours en nom collectif lié aux dommages causés par la marée noire de 2010, un accord que doit valider la justice américaine. Le recours collectif contre Halliburton concernait des dommages à des propriétés et des pertes dans le secteur de la pêche commerciale après la marée noire. L'argent sera versé à un fonds pour compenser les victimes. Halliburton avait construit le coffrage du puits Macondo, exploité par la plateforme offshore Deepwater Horizon de BP. Ce dernier a déjà versé une amende pénale de 4,5 milliards de dollars et accepté de verser 7,8 milliards de dollars à des particuliers et à des entreprises affectées par la marée noire.
Voilà, vous écoutez Le Monde, aujourd'hui c'est l'heure de sport et j'accueille Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Bagassi.
Voilà, on commence par du football, hein, Coupe d'Afrique des Nations. La phase des poules des éliminatoires ont débuté aujourd'hui.
28 équipes réparties en 7 poules de 4 pays vont se disputer les 15 places disponibles pour la phase finale au Maroc, prévue le 17 janvier, du 17 janvier au 8 février. Les deux premiers au classement de chaque groupe ainsi que le meilleur du troisième, tout groupe confondu, seront qualifiés pour la CAN 2015 qui, vous le savez, va se jouer au Maroc. Et aujourd'hui même, Soudan, Afrique du Sud, dans le groupe A, vient de se terminer à Omdurman. Bonne opération pour les Bafana Bafana qui s'en sortent en battant les Soudanais. Donc 3-0. Dans le groupe E, la rencontre Guinée-Togo déplacée à Conakry à Casablanca au Maroc en raison de l'épidémie d'Ebola va débuter sous le coup de 19h GMT. Et le coup d'envoi Sénégal-Égypte dans le groupe G sera donné à 20h GMT au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Rapidement, Bagassi, toutes les autres rencontres prévues demain. Le deuxième match du groupe A, le Nigeria reçoit le Congo à Calabar. Dans le groupe B, le Mali accueille le Malawi à Bamako. À Addis Abeba, l'Éthiopie croise le fer avec l'Algérie. Dans le groupe C, le Burkina Faso attend de pied ferme Lesotho à Ouagadougou. Duel Gabon-Angola, c'est à Libreville. On aura Côte d'Ivoire, Sierra Leone à Abidjan dans le groupe D. Et le choc RD-Congo-Cameroun à Lubumbashi. Le deuxième groupe du match E verra l'opposition Ghana-Ouganda à Kumasi. Dans le groupe F, la Zambie affronte le Mozambique à Ndola. Le Niger va prendre la mesure du Cap-Vert à Niamey. Et le dernier match de cette première journée de la phase éliminatoire, Tunisie-Botswana, c'est à Monasti dans le groupe G.
Et Jean-Roger, en bref, hein, le Bénin a été suspendu pour 2 ans de toutes les compétitions juniors de la CAF.
Oui, 4 joueurs qui ne remplissaient pas les critères d'âge ont été alignés par la sélection nationale du Bénin contre le Mali lors d'un match éliminatoire du championnat d'Afrique des moins de 17 ans prévu. La conséquence est que le Bénin est donc disqualifié et il est suspendu de toutes les compétitions juniors.
Voilà, merci Jean-Roger, c'est tout pour le sport. Voilà, c'est donc avec la voix chaude de Jean-Roger Bion que s'achève notre édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Au micro, c'était Bagassi Koura
et Morgane Guiriec.
On se retrouve dans une demi-heure.